Bienvenue à notre discussion d'aujourd'hui sur les gros changements dans le commerce avec nos voisins du Sud. Imaginez, là, février 2025, paf, nouveau tarif américain.
Oui.
Puis en nous, la cerise sur le gâteau, si on peut dire, finit le seuil de minimis de 800 $ US, celui qui laissait passer des petits colis sans trop de casse-tête.
Exactement. Ça, pour les entreprises d'ici qui shippent aux États-Unis, c'est toute une histoire.
Un vrai choc.
Particulièrement la fin du de minimis. Avant, ben, ces envois-là passaient un peu sous le radar. C'était super simple pour le commerce en ligne, tu sais.
Mm-hmm.
Maintenant, chaque envoi, peu importe la valeur, là, ça prend une entrée en douane formelle.
Ouf! Plus de paperasse, plus de frais.
C'est ça. Puis des nouveaux frais comme le fameux MPF, le Merchandise Processing Fee. C'est un petit pourcentage, 0,3464%. Mais sur plein de petits envois qui étaient gratuits avant, ben ça finit par coûter cher.
OK. Donc aujourd'hui, on regarde ça de plus près avec des guides de Freightcom assez récents de 2025. L'idée, c'est de voir comment on navigue là-dedans.
Oui.
Surtout avec l'accord Canada-États-Unis-Mexique, la CEM, ça devient comme la bouée de sauvetage.
Absolument. C'est l'outil numéro un. Parce que ces nouveaux tarifs américains, il faut comprendre qu'ils sont imposés via une loi d'urgence, l'IEPA.
Ah oui?
Oui, puis c'est pas des petits tarifs. On parle d'un taux général de 35 % sur les biens canadiens qui sont pas conformes à la CEM depuis août 2025. Puis 10 % sur l'énergie ou la potasse non conforme.
35 %? C'est énorme. Mais j'ai lu qu'il y avait pire pour certains secteurs, non? Pratique avant, mais là...
Là, c'est plus une option, c'est essentiel. C'est stratégique. Si ton produit est conforme, il échappe à ces tarifs punitifs-là. C'est aussi simple que ça. On est passé de « nice to have » à « must have », vraiment.
OK, alors allons au cœur de l'affaire. Les règles d'origine de la CUM. Comment on prouve concrètement qu'un produit est nord-américain? C'est quoi le truc?
Bien, le principe de base, c'est de montrer que le produit a été fait ici ou assez transformé ici en Amérique du Nord.
OK.
La règle la plus simple, c'est entièrement obtenu. Genre des carottes qui ont poussé au Québec. Ça, c'est clair.
OK. Oui, ça, c'est facile. Mais la plupart des produits manufacturés, ça utilise des pièces ou des matières qui viennent d'ailleurs. Là, ça se corse.
C'est là qu'on tombe dans les autres règles, surtout celle du changement de classification tarifaire. L'idée, c'est que la job faite ici, la transformation, doit être assez importante pour que le produit change de catégorie dans le système de code douanier, le fameux code SH.
Ah, le système harmonisé.
C'est ça. Mettons, t'importes du bois d'Asie, ça a un code SH. Tu fabriques une table avec ici, la table a un autre code SH. Si la règle pour les tables demande ce changement-là, t'es correct.
OK.
Puis il y a aussi le contenu en valeur régionale, le CVR. Faut qu'un certain pourcentage de la valeur du produit vienne d'Amérique du Nord. Pour les autos, par exemple, c'est monté à 75 % avec la CUM.
Donc, trouver le bon code SHE, celui à 10 chiffres, c'est comme la première étape cruciale. Si tu trompes là-dessus...
C'est pas mal ça, oui. C'est la clé. Le bon code SHE te dit quelle règle d'origine s'applique à ton produit. Si t'as pas le bon code, tu risques d'appliquer la mauvaise règle, puis là...
L'avantage à CUM saute.
Exact. Refus aux douanes, délai, pénalité potentielle. Faut être vraiment précis là-dessus.
D'accord. Une fois qu'on pense être conforme, qu'on a fait nos devoirs, comment on le prouve aux douaniers?
C'est là que le certificat d'origine entre en jeu. C'est exactement ça. Le certificat d'origine, c'est la preuve. Fait intéressant, il n'y a pas de formulaire officiel obligatoire sous la CUM.
Ah non?
Non. Mais il y a 9 éléments d'information qui doivent absolument s'y retrouver. En gros, qui est impliqué? Certificateur, exportateur, producteur, importateur. C'est quoi le produit? Description précise et code SH. Et pourquoi il est originaire, le critère d'origine utilisé.
D'accord.
Plus quelques infos, comme la période couverte, si c'est un certificat qui couvre plusieurs envois, et bien sûr, une signature autorisée.
Et qui peut remplir ça? C'est l'exportateur qui doit le faire.
Il y a de la flexibilité là-dessus. Ça peut être l'exportateur, le producteur ou même l'importateur. Sauf, attention,
oui.
Pour les importations au Mexique, là, c'est juste l'importateur qui peut certifier. C'est une particularité mexicaine.
OK, bon à savoir.
Un petit truc pratique. Toute cette information-là peut être mise directement sur la facture commerciale. Pas besoin d'un document séparé si tout y est.
Ah, super. Ça simplifie.
Oui, mais l'important, c'est que l'info soit complète, exacte et... qu'on garde les preuves.
La conservation des documents, oui.
Combien de temps?
C'est crucial pour les audits. Il faut garder ça 6 ans au Canada et 5 ans aux États-Unis et au Mexique. Les agences douanières, la SFC ici, CBP aux States, SAT au Mexique, elles peuvent vérifier n'importe quand.
Très clair. Alors, si on est une entreprise, là, maintenant, qui expédie aux États-Unis, c'est quoi les actions concrètes immédiates à poser?
Bon, premièrement, il faut passer chaque produit, chaque SKU au peigne fin. Est-ce qu'il qualifie pour la CUM, oui ou non?
OK, un audit interne?
Exact. Deuxièmement, s'assurer qu'on utilise les bons codes SH et le bon pays d'origine sur tous les documents. Troisièmement, prévoir les coûts additionnels possibles. Droits de douane sinon conformes, taxes, frais de courtage.
Mm-hmm.
Ça peut valoir la peine de regarder l'option d'expédier rendu droit acquitté, DDP. C'est-à-dire qu'on paye tout d'avance, le client final n'a pas de mauvaise surprise.
Bonne idée, ça.
Aussi, des descriptions de produits ultra détaillées sur les papiers d'expédition. Puis, inévitablement, revoir ses prix et ses marges. Faut que ça tienne la route financièrement.
Et j'imagine que c'est pas juste un exercice qu'on fait une fois puis c'est réglé. La conformité, ça doit être continu.
Oh non, pas pantoute. C'est une gestion de tous les jours ou presque. Ça prend des contrôles internes solides, faire des audits de temps en temps, former le personnel.
D'accord.
Faut aussi être vigilant avec ses fournisseurs. Si eux te donnent un certificat d'origine, tu as une responsabilité de faire une diligence raisonnable, de vérifier que ça a de l'allure.
Logique.
Puis, faut être prêt à répondre aux questions des douanes s'ils font une vérification. Et, bien sûr, rester informé. L'accord ACEM lui-même va être révisé en 2026, alors ça pourrait encore changer.
Bon. Pour résumer rapidement, cette vague de tarifs américains, puis la fin du TG de minimis, ça brasse la cage pas mal pour le commerce transfrontalier.
C'est le moins qu'on puisse dire.
La stratégie numéro 1 pour s'en sortir, c'est donc une conformité ACUM vraiment rigoureuse, prouvée par des documents impeccables, surtout ce fameux certificat d'origine.
C'est ça la clé pour éviter les gros frais puis rester compétitif. Faut être rigoureux, proactif.
Et pour finir, peut-être une petite réflexion. Est-ce que toute cette pression protectionniste américaine, combinée aux exigences plus strictes de l'ACUM sur l'origine, est-ce que ça pourrait pas, involontairement, pousser les entreprises à ramener encore plus de production ici, en Amérique du Nord?
C'est une excellente question.
Plus que ce que l'accord visait au départ, peut-être. Une relocalisation encore plus profonde des chaînes d'approvisionnement.
C'est tout à fait possible. Ça force les entreprises à revoir leur stratégie de A à Z. On pourrait effectivement voir un renforcement des chaînes régionales, au-delà des attentes initiales. C'est une dynamique très intéressante à surveiller dans les prochaines années, c'est sûr.